Ce nouvel épisode vous présente le troisième thème, protection et préservation.
Bonne écoute.
Le site, il a été redécouvert, restauré, valorisé et entretenu par des bénévoles depuis 20 ans. Donc une des raisons du fait que ce soit fermé, c'est aussi parce que y a pas mal d'intrusions et c'est beaucoup de travail en fait qui a été fait ici, et donc il y a des choses qui peuvent être dégradées, pas forcément par mauvaise intention, mais plutôt par méconnaissance. C'est un endroit qui est assez fragile, donc qui a besoin d'être protégé. Donc j'entends les bénévoles qui vont être très prudents, donc se relayent tous les dimanches pour ouvrir les parcelles, pour que ce soit ouvert au public, mais qui sont 10, et sur 50 et quelques semaines, c'est compliqué de se relayer déjà un dimanche par semaine. Et donc il faut, quand on fait visiter, on explique tout ça en fait, de pourquoi c'est fragile, quand on marche, voilà. Et dans l'autre sens, moi à titre personnel, j'aime pas non plus quand on sanctuarise les endroits, et je pense que cette mesure entre protection et sanctuarisation, elle se fait quand on se rend compte de la fragilité d'un endroit et que en même temps on se permet de venir y faire des choses, mais parce qu'on sait où sont les fragilités. Et ça, je pense que c'est vraiment en accueillant et en accompagnant. Plus il y a de gens qui aiment les murs à pêche, et plus le site est protégé.
Finalement, la protection du site, quoi, le fait que ça a été classé, tout ça, le côté patrimonial, des fois, il apporte ce côté-là, on va dire, négatif, tu vois. Parce qu'on parle vraiment de protection du patrimoine, au lieu de, par exemple, parler beaucoup plus de médiation, tu vois, de justement comment on fait découvrir un peu ce patrimoine très particulier aux jeunes ou aux enfants. Ou même aux gens qui habitent ici, qui du coup sont de cultures, d'endroits complètement différents.
Moi, ce que je peux dire, c'est que, d'une part, c'est fragile. Si on veut garder un espace comme ça de nature, ici, en milieu urbain, quand même,
oui.
C'est un écrin comme ça. Tout est fragile, c'est-à-dire que c'est des petits jardins qui sont entretenus par des bénévoles, c'est des espaces qui sont entretenus par des bénévoles, des gens, la plupart sont bénévoles. Nous, on est salariés, mais le reste, c'est quand même beaucoup des bénévoles, la plupart, qui passent un temps fou. Et bon, le problème, c'est aussi ils s'approprient un peu. Donc,
oui.
C'est un réflexe un peu normal. Parce que comme ils font plein de choses, ils s'investissent beaucoup, ils ont envie de, voilà, qu'on respecte leur lieu. Mais c'est comme tout ce qui doit se faire, c'est pas seulement au niveau de l'ouverture des jardins ici, c'est tout ce qui doit se faire par rapport à l'écologie et à notre façon, aux besoins de changement de l'humanité entière, de changer son comportement vis-à-vis de la nature et de tout, quoi. Il faut sensibiliser pour informer, pour expliquer pourquoi on doit changer notre façon d'être au monde. Parce que c'est ça, en fait, si on peut venir ici, c'est si on comprend comment ça fonctionne. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on n'a pas envie de venir ici. Si on préfère rester dans un univers stérile, où il n'y a pas de petites bêtes, et où il fait toujours chaud, et puis qu'il y a... Voilà, on a un espèce de confort, qu'on ne veut pas salir les mains. C'est sûr qu'on n'a pas envie de venir ici. Parce qu'à son niveau, parce que c'est toujours à des niveaux très infimes. C'est-à-dire on fait venir des écoles, donc c'est des enfants. On les touche par, Ben, par le fait qu'ils voient autre chose, qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir. Ça dépend des enfants, hein, mais bon, on a, voilà, il y a des enfants qui viennent ici, ils sont un peu déstabilisés, mais en même temps, ça dépend de l'âge aussi. Mais c'est, puis c'est arriver à les intéresser, ça, c'est tout un, c'est un métier aussi d'arriver à faire en sorte qu'ils prennent de l'intérêt pour ce qui se passe. Et qu'ils sont pas, que voilà, que ben oui, l'ordinateur ou tout ça, qu'ils arrivent à oublier ça et puis qu'il y a une vie ailleurs que dans le téléphone.
Donc, ma préoccupation majeure à l'époque, en 94-95, ça a été de dissocier la société d'horticulture qui était présente sur le jardin école, de la dissocier des autres de la fédération, mm-hmm. c'est-à-dire l'enlever, la retirer des associations de sociétés d'horticulture et syndicats de cultivateurs, de demander à ce qu'elle devienne l'unique locataire du jardin école. Pour cela, il fallait faire un avenant au bail, parce qu'on était en 96-97. Mm-hmm. J'ai donc demandé au député maire de l'époque, M. Brard, la possibilité d'avoir un avenant pour que la société soit bien assise au jardin-école. Ce qui a été fait au bout de 3-4 mois de
tractation. Donc là, il n'y a pas de fragilité possible. C'est, il faut regarder donc, dans le plan local d'urbanisme qui est à l'échelle d'Est Ensemble, hein, voilà, et qui, dans ce plan local d'urbanisme, il y a donc ce qu'on appelle un schéma particulier qui traduit vraiment les objectifs, en l'occurrence de la ville de Montreuil, les objectifs de préservation, essentiellement, hein, c'est vraiment à la base, l'enjeu, c'est la préservation de, des hectares, de ce qui reste encore de ces parcelles agricoles, en fait. Voilà. Et donc, autour de cet enjeu de préservation, il y a ensuite, on décline en disant bah, comment on fait pour adapter finalement les différents lieux à la réalité de l'occupation actuelle et comment on fait pour faire vivre un petit peu tout ça, tout en se disant toujours qu'on va préserver les choses. Mmh. Et il faut les faire vivre, il ne s'agit pas juste de... on sait qu'on peut pas, n'a ni les moyens et que ce n'est même pas souhaitable de les mettre sous cloche, de toute façon c'est pas l'objectif et puis personne ne le souhaite. Puis on ne pourrait pas. Mais du coup, on a des acteurs. Il y a des acteurs qui s'engagent sur la préservation ou des habitants. Enfin, il y a toutes sortes de gens qui passent.
Oui.
Ça reste quand même des grands objectifs. Hein. C'est pas détaillé, quoi.
Non.
Mais après, effectivement, c'est pas opérationnel. Après, il y a des choses qui sont mises dans le schéma directeur qui sont aux phases opérationnelles. Je pense au chantier de la biodiversité. Voilà. Là, on est dans les phases opérationnelles. On engage des sous, littéralement. On fait des travaux. Effectivement, la question, c'est que je vois bien la contradiction qu'il y a entre des acteurs qui sont, pour certains, depuis des dizaines d'années maintenant, et qui ont sauvegardé, qui ont nettoyé, qui ont remis en valeur, etc., et tout, qui ont commencé à prendre ça en charge, et qui sont effectivement dans la nécessité de protéger aussi contre justement des usages qui sont potentiellement, qui peuvent fragiliser le lieu, l'abîmer, etc. Enfin, je pense que c'est souvent ça. Et cet usage-là, bah, de fait, ça rentre en, pour moi, en une certaine forme de, pas contradiction, mais il y a forcément une confrontation avec ensuite la volonté, le souhait des habitants d'avoir accès au murage. Parce que si on entend les associations qui le disent, et moi je les entends, je les connais, voilà, oui. Et tout. Et par contre, la question, c'est aussi d'engager des moyens, et c'est aussi ce qui est mis en place, d'abord pour pérenniser les associations dans leur relation avec la ville, ce qui a été fait d'un point de vue aussi
conventionnel.
Des conventionnels, hein, puisqu'il y a des conventions qui ont été mises en place avec, avec Jean-Charles Nègre à la fin. Voilà. Donc ça, au moins, ça assoit la relation, la pérennité de relation entre les associations et la municipalité. Et puis ensuite, les travaux, les acteurs, même les services qu'on met, enfin les les agents qui sont mis en place pour travailler directement sur les murs à pêche avec voilà, c'est ça marque aussi, c'est, enfin en tout cas c'est concrètement une action concrète pour montrer qu'il y a une volonté de la ville d'agir sur les, enfin de préserver les murs à pêche en agissant auprès à la fois des habitants et à la fois auprès des associations.
Quand je suis arrivé ici, il y avait déjà un gros travail qui a été fait en amont par la mairie. À savoir qu'ils avaient déjà commencé le dégagement du ruisseau, là, enfin, du Rugobetu. Et moi, j'ai la chance d'être justement sur le circuit là. Et donc, du coup, ils avaient déjà commencé vraiment une grosse partie du travail d'enlèvement de déchets. Là-dessus, ça c'est bien. Moi, j'avais vu qu'il y avait plein de détritus au départ. Et ça, ils l'ont fait avant même qu'on s'installe. Donc ça, je l'avais vu, mais en arrivant, moi, tout ce que j'ai trouvé, c'était une jolie faune qui avait résisté, plein de cornouilles et sanguins, de la menthe sauvage, des restes même de maraîchers, parce qu'il y a plein de fruits qui sont très bien alignés. On a reçu un sourcier ici, enfin une sourcière, qui avait remarqué que tous nos arbres étaient sur des rues. À chaque fois, elle m'a dit, bah écoute, enfin, ces arbres-là sont très très bien plantés par rapport aux rues, etc. Et plein de choses comme ça. Donc il y a eu une vie avant nous, on le voit, on le sent, ça c'est clair. Et voilà, je peux dire plus ce qu'on a ressenti en arrivant là, on a ressenti une âme, hein. Ouais. Clairement, hein. On a ressenti quelque chose.
Hein. T'es arrivé en quelle année ?
Ici, alors en 2019, fin septembre je crois, 2018, le temps qu'on s'installe, c'était l'hiver 2019. On a commencé par acheter du matériel et plein de choses. Et on s'est fait voler dès la première semaine. On était dans une croyée. On mettait ça sous une bâche. On pensait que c'était bon. Et tout ce qui était sous un moteur, etc., on s'est tout fait voler. On avait acheté une serre de 6 mètres par 3, pareil. Où ça allait jusqu'à nous voler nos arbres fruitiers, parce qu'on a acheté de nouveaux arbres fruitiers. Et ça se voyait avec, bah, du coup,
avec la
cuve. Ouais, voilà, on fait une petite cuve, une bassine. Ça se voyait vraiment que ça venait d'être planté. Ça se voyait, ils étaient jeunes, ils étaient encore l'étiquette. Du coup, on se faisait voler. Il y a eu le Covid, on s'est encore plus fait voler. Et après, avec le Covid, c'était un peu dur. On a recommencé. On essayait de construire une cabane. On s'est rendu compte qu'on n'était pas les rois de la construction. Et donc, du coup, là, on a détruite parce qu'elle commençait vraiment à prendre l'eau par en dessous. Et on a laissé tomber l'idée de faire une cabane, mais on va plus faire une serre, et un côté serre et un côté rangement. On a récupéré ça, les grandes plaques de PVC qu'on va utiliser pour ça. Et voilà, après de ce qui s'est passé jusque-là, chaque année, on refait des annuels. L'idée, c'est de faire un bar à graines ici. Voilà, donc, toutes les graines, là, j'ai plus confiance, donc je les range chez moi. Je les trie chez moi, même si c'est quand même plus pratique, je comprends pas, en hiver, hein, de faire le tri à la maison, de les faire sécher au sec. Et l'idée, en fait, c'est de les ressortir ici chaque printemps, enfin, dès février, commencer à en semer et à refaire notre troc. Voilà.
Que tu fais, toi ? C'est quoi ta journée type ?
Je commence par le nettoyage, vraiment. Ouais. Ça prend déjà 15 minutes tous les jours. Hein. Je vais nettoyer un peu tout ce qui traîne, etc. Puis après, je vais tourner dans le jardin, observation.
Et tu plantes
Je commence par observer déjà. J'aime bien regarder, observer déjà ce qui s'est passé. Là, en ce moment, par exemple, il fait froid. Ce que j'aime bien regarder, les zones qui vont dégeler le plus vite, enfin le plus tôt. Ouais. Donc, je passais d'ailleurs, je regardais, il y avait encore un peu de gel. Quelle zone va dégeler le plus vite? Quelle zone va garder plus de gel?
Parce qu'il va déterminer les endroits de plantation, justement.
C'est ça, par rapport au vent. On sait que c'est les endroits les plus exposés au sud de nature. Ceux qui sont au nord vont garder le froid. Ça, pas besoin d'observer longtemps. Mais par rapport au vent, par rapport aux arbres, par rapport à nos constructions, etc. Ouais. Donc, si je dois planter demain, déjà, d'abord, j'observe. Et après, du coup, je détermine. Là, en ce moment, il n'y a pas trop de plantation à faire. C'est plus la taille. Là, je vais commencer bientôt la taille. J'attends juste les dernières gelées. On peut tailler la vigne devant. Mais moi, maintenant, c'est un square, en fait. Et je ne sais pas qui s'en occupe. Ouais. La gestion, je ne sais pas qui elle est donnée. Moi, l'année dernière, j'ai tout taillé la vigne qui est sur sur le...
Là, sur le square actuel, quoi.
Ouais, sur le, l'espèce de scène, là.
Oui, non, oui, c'est
le... Colisée, je pense. Quoi, non. Je le fais de bon cœur, parce que ça me fait mal au cœur, ce que je disais. J'ai planté quelques arbres, j'ai mis des jouets pour les enfants, j'ai mis des livres, des trucs. Parce qu'il n'y a pas de vie sur le square.
Ouais. Et, mais toi, ton métier principal, c'est quoi ici, précisément? L'activité, c'est de planter des tomates?
Mon activité principale, c'est de multiplier les graines ou certaines espèces, les vivaces, certains trucs. C'est pas forcément les tomates. En fait, les tomates vertes, c'était plus symbolique qu'autre chose. D'accord. Par rapport à un film. C'est un coup de cœur, en fait. Et puis, j'aime bien le vert, les chaussures, ça, que tu as. Et parce qu'aussi, pour symboliser aussi le côté... où on fait des choses un peu rares, sortir un peu de l'ordinaire. À l'époque, en fait, j'avais fait des tomates vertes et j'avais aussi surpris des amis en leur faisant croire qu'elles étaient pas mûres. Sinon, on me les bouffait toutes. Donc je disais non, mais en fait, elles sont pas mûres, faut attendre. Et au final, je donnais qu'aux meilleurs amis, vraiment, parce que j'en ai pas beaucoup. Et c'est resté les tomates vertes, une rigolade comme ça. Okay. Pour apprendre déjà à cultiver, pour troquer des graines.
À troquer des graines contre quoi?
Bah, contre d'autres graines ou d'autres plantes qu'ils ont à ramener. Hein. Ou sinon, bah, ça nous arrive d'en faire à prix libre. S'il n'a rien à donner, bah, il donne ce qu'il veut.
Ok, d'accord.
Certains, sur certains événements, c'est ça.
Et s'ouvert à des heures précises?
Okay, je suis ouvert tous les jours.
Tu es là tous les jours
pas le choix, si je suis pas là, je me fais tout voler.
D'accord, ok. Ah oui, toi, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Toi, il faut que tu restes. D'accord.
Bah, j'essaie d'envoyer toujours quelqu'un, j'essaie toujours d'être là, enfin, avec ta présence. Je suis pas là un jour. Le lendemain, enfin allez, non, j'abuse. Je suis pas là 3 jours. Le lendemain, pour le plus gentil, quand c'est bien cool, hein, j'ai tout plein de restes de McDo, des canettes par terre, des trucs. Ouais, ça c'est quand ils sont gentils. Alors, on m'a rien volé, mais il y a des poubelles. Comme tu vois, c'est moi je les monte, c'est moi je les descends. Et voilà, je retrouve ça avec le vent un peu partout, des papiers de cheeseburger au bout du jardin. Voilà, ça c'est quand c'est cool, quoi.
Et quand c'est pas cool?
Bah, quand c'est pas cool, bah, c'est des vols, des dégradations, oui, des meubles cassés, des chaises dans le puits. Tous les livres que j'ai posés ont été déchirés feuille par feuille, je ne sais même pas pourquoi.
Vous êtes allé voir Karim des tomates vertes?
Oui.
Bon, tu vois tous les problèmes qu'il rencontre, lui?
Bah oui.
Donc, tu vois, cette question de préserver un endroit, etc., elle apparaît naturellement, en fait, que lui, il s'est fait voler plein d'arbres qu'il avait plantés, plein de matériel. Voilà, donc il y a un truc, comment on préserve un endroit, comment...
Exactement.
Moi, je vois pas d'autre solution que d'y vivre, en fait, et à plusieurs, d'avoir une présence continue dessus. Voilà, Karim, il est courageux. Toi. Il est seul contre tous, il recommence, il a pas peur. C'est incroyable, tu vois. J'ai son énergie par passion. Voilà. Donc oui, il y a un endroit, il y a quand même cette question-là qu'il faut que ça reste ouvert, faut que ce soit préservé. C'est un entre-deux. Moi, je pense qu'il faut le faire comme on l'a toujours fait, nous. Tous les gens, ils le savent qu'il y a des petits passages en douce, que ça va de soi qu'on respecte l'endroit, qu'on vient... Bon, bah voilà, qu'on va rien chourave, qu'on va rien. Je vais pas m'amuser à déplanter des arbres ou quoi. Je vais en profiter, je vais accueillir un abricot ou une pomme quand elle est mûre, mais c'est tout. Bah, c'est pareil, moi je peux accueillir les gens, ils savent que j'habite ici. Donc, c'est une chance, tu vois. C'est-à-dire que ça se fait naturellement, en fait. Ça se fait, je peux leur parler des choses, tout le monde est légitime, et il y a quand même une légitimité naturelle un peu plus forte, sans aucune prétention là-dedans. C'est juste.
Sur le respect.
Il faut vivre comme ça. Ouais, sur le fait que tu es écouté, tu es entendu, tu vis là, donc forcément, tu vois, je veux dire. Enfin, pour moi, ça me paraît très logique à l'inverse. Et je me rends compte que, et c'est ce qui se passait à Liboro, les gens, ils venaient de me voir parce que je vis sur le truc. Donc je connais, s'il y a un problème dans la nuit d'électricité de flotte ou quoi, je l'ai réglé. On connaît les choses, on connaît le terrain, comme n'importe qui en vrai. C'est j'ai pas des facultés plus importantes que quelqu'un d'autre. C'est n'importe qui ferait comme ça dans cette situation-là. Et il y a la légitimité, quoi. Ça peut être une solution. En tout cas, ça peut être une réponse à ta question. Il y en a certainement plein, mais en tout cas, je dirais moi, de manière radicale, d'installer une borne électrique, de l'eau pour toutes les parcelles et une caravane ou une personne qui puisse vivre sur l'endroit. En tout cas, il n'y aurait pas ces problèmes de maltraitance des parcelles, entre guillemets, ce que tu viens de dire, des plantes fraises arrachées, des trucs qui sont laissés là, des mecs qui viennent, qui viennent. Ça se trouve, c'est une personne, on ne sait pas qui, je ne veux même pas parler de qui c'est. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'une lumière sur une caravane un soir, ça éloigne quelqu'un direct. Et voilà, ça, c'est un fait.
Ou ça invite.
Ou ça l'invite en bien, bien entendu. Et c'est pour ça que c'est ouvert chez moi, parce que ouais, quelqu'un qui vient, il peut se servir, il fera ce qu'il voudra. Je prends ce risque-là. Mais voilà, c'est comme ça. C'est de toute façon, c'est une réflexion sans fin, parce que comment tu fais, ça, c'est lié au fonctionnement d'un endroit, en fait, d'un lieu qui est pas occupé tout le temps. Donc comment tu gères ce truc-là, en fait, c'est ça. Je suis partagé entre le fait que ça doit rester complètement libre en friche, parce que je prends énormément de plaisir à évoluer là-dedans de cette manière-là, mais voilà, je veux pas que ce soit que pour moi, conscient et bien conscient, notamment en voyant tous les problèmes que rencontre Karim, que comment on préserve un endroit à un moment en le fermant à clé, en le protégeant. T'as quand même cette notion là, même si je suis contre ça. Donc c'est des questions que je me pose avec lui souvent, on en parle souvent, parce que c'est une vraie question, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, en vrai.
Quoi? C'est la question de la protection.
Faut qu'il soit protégé de d'esprits malveillants. Donc c'est pas avec des portes à clé, en fait. C'est tout un discours, c'est toute une mise en valeur du lieu. C'est une réorganisation aussi avec pouvoir traverser de long en large sans être bloqué quelque part, sans avoir envie de casser une barrière parce qu'elle t'empêche de passer. Ça peut passer comme de la provocation. En tout cas, moi, je veux une porte à clé. J'ai envie de passer par dessus. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. C'est sûr et certain. Donc la malveillance, je pense pas, mais comme une forme de d'exclusion, en tout cas.
Parce qu'une des questions
c'est le truc de la chour aussi. Tu vois, par exemple, les lézards dans les murs. Je sais pas si vous allez les voir, Aurélien, Laura, etc. Oui. Ils ont leur cahute au début, leur bureau. Bon, ils font quand même un travail, je trouve, assez remarquable avec tous les petits, les enfants, les mamans, et d'ouverture aussi au lieu, etc. Ils se sont fait péter plusieurs fois dans la nuit leur bureau, tu vois, et chourer des trucs, tu vois. Donc c'est toujours pareil. Tu peux faire confiance, tu fais. C'est ce que je dis. Il faut vivre sur place. Voilà. Tu vis sur place et c'est quelque chose dont je peux parler, puisque c'est comme ça que je vis. Même si je suis pas tout le temps là, mais il y a plusieurs gens qui vivent. Il faut pas être tout seul à vivre à un endroit. Voilà. Il faut être plusieurs. Il faut tourner. C'est un long chemin, mais c'est une des solutions possibles, je pense, sur les murs à pêche. Tous les gens qui vivront sur place, qui seront sur place, ils seront des médiateurs naturels. C'est-à-dire que c'est hors institutionnel. Et tu vois, et en fait, je pense qu'il faut vraiment, il faut ouvrir et faire confiance, en fait. C'est aussi ça la solution pour pas qu'il y ait, parce que si on t'interdit quelque chose, tu vas vouloir passer outre ce truc-là. Si on te l'interdit pas, déjà, t'es un peu plus désarçonné, déstabilisé, tu vas peut-être pas chourer de la même manière, tu vas pas machin. Si t'es malveillant, parce que y a une personne sur 100 qui est malveillante, mais on n'est pas à l'abri de ça. C'est pas parce qu'il y a un profiteur d'un truc chamé qu'on remet en question ce fonctionnement-là. Tu vois ce que je veux dire? Ma question, elle n'est pas innocente. Oui, bien sûr, oui. C'est est-ce qu'ils sont au courant, qu'ils peuvent, qu'ils savent, etc. Donc, je sais qu'il y a quand même de l'ouverture, pas assez. Avec le Land Art, Fabienne, elle faisait assez bien. Mais c'est aussi des gens qui ont des fonctionnements très urbains, très d'immeubles. Qui est lié à la nature du lieu aussi, qui est devenu jardin, site protégé, jardin remarquable, loto du patrimoine, image de marque, de vitrine de la mairie de Montreuil, les enclavements, des écrins de nature au cœur des villes, etc. Il y a tous ces enjeux-là autour des murs à pêche, de par ce patrimoine historique, différent des Beaumont, par exemple. Tu vois. Donc il y a forcément plein de gens qui s'y intéressent. Et après, c'est à tout le monde de devoir s'y intéresser. On parle d'éducation populaire, on parle plein de choses. Après, n'importe qui vient là, on s'approprie les lieux, c'est chez nous, avec du bon sens, avec plein de choses. Donc, on ne va pas tout révolutionner d'un coup, mais dès qu'on peut, dès que c'est possible, c'est super qu'on se rencontre, parce que vous savez que j'ai les clés, vous savez que je peux vous filer un double, vous savez que vous pouvez venir quand vous voulez. On peut faire, tu vois, voilà, de fil en aiguille. Ah oui. Et voilà, moi, je reste contre toute forme de propriété privée. Mais c'est vrai que, voilà, je reviens à la question du départ, l'être humain, dans n'importe quel fonctionnement, il a besoin d'intimité un peu et d'avoir quelque chose à lui, un minimum, dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel fonctionnement, ça j'en suis sûr et certain. Sinon, de toute façon, tu te perds et tu ne dures pas longtemps.
Mais
comme
justement.
Ça. Donc, comment on fait aujourd'hui avec ça? Eh ben, quels sont les acteurs qui vivent sur le terrain? Il y a Alune, il y a nous, il y a Nadia, il y a des gens qui vivent. Les enfants, ils viennent, il y a des enfants, il a rencontré des gens du quartier d'à côté, de la rue d'à côté, donc dans les pavillons, à côté ouais. du Bel Air. Et leurs enfants, pendant un an, ils sont venus s'occuper des bêtes avec Alune, etc. Le soir, ouais. les parents, ils se connaissaient. Ouais. Voilà, je veux dire, c'est à chacun aussi. C'est à chacun de d'y aller, quoi.
C'est comment tu fais de la récupération de ce que tu vois dans la rue et tu retransformes tout pour non pas vivre. Pour vivre oui. et non survivre. C'est ouais, ça que tu dépasses. Ouais, ouais. Tu vois, là, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pour les nouvelles lois anti-squat,
ouais.
Il y a une phrase qui, de certaines personnes qui disaient oui, nous, on les connaît, les personnes de bonne foi, tu vois, les locataires ou les squatteurs, c'est ceux qui, les bons pauvres, c'est ceux qui n'ont rien à manger mais qui vont payer leur loyer, tu vois. Il y a eu plein de phrases comme ça. Et en fait, aussi, l'occupation, elle revendique le fait de comment tu vis. En même temps que tu survis. Et vivre, c'est aussi être
bien vivre,
bien vivre et avec tous les déchets de notre société.
En fait, les structures que vous voyez, c'est fait un accord, c'est tout des structures qui peuvent partir d'un moment à l'autre si ouais. besoin pour vraiment ne ouais. pas avoir un impact sur la parcelle. Et bien sûr, nous, on s'engage à remettre en état et vraiment à garder tout ce qu'il y a en termes de patrimoine. Ouais. En même temps, avec vraiment une empreinte très légère, on va construire quelque chose pour faire profiter aux gens, surtout pendant les journées du patrimoine. Là, on est vraiment ouvert en balade parce que c'est le moment vraiment de
vraiment, c'est pas de la peur. C'est embêtant parce que c'est à chaque fois c'est refaire des travaux parce que du coup les cabanes sont cassées. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que toutes les cabanes, on les voit de l'extérieur parce que du coup on a fini par mettre des barreaux comme ça. Les gens voient qu'en fait il n'y a rien d'intéressant à prendre. Donc toutes les cabanes sont ouvertes maintenant. Enfin, elles sont ouvertes. Elles sont. Il y a une ouverture de manière. Et depuis que les cabanes sont comme ça, on n'a plus aucun vol. Alors, c'est pas de la peur. Moi, vraiment, ça me fait pas du tout peur. Et personne dans l'équipe, ça peut faire peur. C'est juste embêtant parce que c'est du matériel à réparer, parce que c'est de l'argent à sortir. Mais c'est vraiment pas de la peur. Vraiment pas.
En plus, nous, on a une concession par la ville. Et donc, c'est un peu nous qui gérons le lieu. Donc, c'est aussi nous qui sommes un peu responsables de ce qui se passe. Et c'est vrai que nous, pour l'instant, on n'a jamais laissé la parcelle ouverte. S'il y a des régisseurs ou quelqu'un de l'équipe qui surveille, qui voit que tout se passe bien, oui. Mais sinon, on ne peut pas se permettre de laisser un accès ouvert sans quelqu'un qui surveille. Parce qu'on est quand même aussi responsable. S'ils abîment les matériels, nous, après, c'est nous qui sortons l'argent pour réparer. Et aussi, c'est une question aussi de temps. Si on a trop de dommages, on n'arrive pas à ouvrir pour la saison. Parce qu'on travaille, on a des lieux. Donc,
oui,
nous avons une convention, une mise à disposition.
C'est une mise signée, mais c'est des conventions d'occupation, non?
Oui, d'occupation.
C'est ça?
Pendant 10 ans.
10 ans.
On vient de renouveler il y a 2 ans.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit comme ça, ouais, maintenant les murs à pêche, on peut plus y aller. Avant, il y a longtemps, hein. On venait, c'était sauvage, on venait faire des barbecues, c'était des des espaces ouais. comme ça abandonnés, c'était génial, gamin, je venais, bah, c'était oui. voilà. Ben oui, mais je dis ouais, c'est sûr que ça devait être génial, mais en même temps, les associations, elles sont là, et c'est grâce aux associations que cet espace a été ouais, été préservé, parce que sinon il y aurait des tours là maintenant. Ouais. Donc voilà, après. Ces associations, elles ont fait un boulot énorme et effectivement, on ne peut plus accueillir des gens qui viennent faire des barbecues, qui viennent s'amuser comme ça, sans faire attention à l'environnement. Je veux dire, nous, c'est un espace fragile, on y travaille tous les jours, c'est ardu, enfin voilà. Et moi, je suis pour que les gens viennent, visitent, s'ils sont respectueux du lieu. Mais si c'est pour voilà, pour faire des barbecues, des choses comme ça, c'est pas possible.
Et on a fait ce qu'on fait depuis, c'est chantier de restauration dans les deux sens du terme.
Ah,
on
oui.
restaure les murs et on se restaure. Puisqu'on fait pousser des fruitiers sur les murs, donc on maçonne pour se nourrir, mais pour maçonner, il faut être nourri. Donc, et cuisiner, c'est une très, très bonne manière de faire le lien entre des gens qui ne parlent pas forcément la même langue. Et je m'appuyais aussi sur ce qui a été fait à l'association Murapêche depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y avait un chantier d'insertion avant, qui a été monté par Pascal Mage. Donc avec c'est une idée... Donc, qui me précède et à laquelle j'adhère totalement, c'est-à-dire qu'on peut faire à la fois le travail patrimonial, mais avec des outils d'insertion et de mise en lien. Et ça, j'ai trouvé que c'était une très belle idée. Donc, en ça, voilà, j'ai repris l'idée. Il y a aussi l'association Les Pierres de Montreuil, qui était soutenue par l'association Mur à Pêche, mais avec donc une nouvelle équipe de maçons qui a vraiment consolidé ce travail de restauration patrimoniale et travail d'insertion professionnelle. Je dirais que nous, notre chantier de bénévoles est plus modeste en termes de formation. Mm-hmm. C'est un travail de bénévole, donc on n'est pas sur un rythme professionnel, mais on est vraiment sur un temps d'accueil et de rencontre.
Là, il y a deux choses. Il y a déjà, on est sur le territoire des Murapêche, donc c'est militant aussi. Hein. C'est pour que les gens prennent conscience de la magnificence de ce territoire et qu'ils aient envie de le protéger, de continuer à l'observer, de l'encenser. Il y a ça. S'ils en font un territoire ami et qu'ils ont conscience qu'il est en constante évolution et qu'ils peuvent participer à cette évolution de façon douce et respectueuse, bah voilà, je trouve que ça c'est super. Et après, bah là c'est plus quelque chose de personnel. Pourquoi on a envie ? Bah parce que moi je pense que quand on fait des recherches, c'est bien d'avoir une phase où on cherche seul, mais une phase où on partage parce qu'on évolue aussi avec ça.
Je sais pas si pour autant de gens que ça, la nature c'est un truc à préserver ou l'eau. Je commence à faire carrément de la politique, mais bon, tu vois, la privatisation de l'eau, je me dis, mais comment les gens peuvent pas se dire à un moment, j'ouvre mon robinet, il n'y a pas d'eau, et est-ce qu'il faudrait pas que je m'en occupe dès maintenant ? Pourquoi les gens s'investissent pas ?
À la réalisation et au montage,
Vladimir Cruels et Matteo Califano de Voix Machine
et Léa Longeau de Didatica.
Émission produite par le collectif Voix Machine avec le soutien du contrat de ville d'Est Ensemble et de la CAF de Seine-Saint-Denis.
Une playlist a été constituée à partir des choix musicaux des 17 acteurs rencontrés. Vous la retrouverez dans les différents épisodes.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien voulu partager leur point de vue.
Merci pour votre confiance et à bientôt pour un prochain épisode.